raconter l'histoire des mots, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme qui fait danser les mots, qui aime les frotter les uns aux autres, les malaxer comme une pâte jusqu'à ce que jaillisse, tel un éclat de rire, un sens ou un son, ou plutôt un sens grâce à un son, et parfois même de l'insensé au cœur même du son. Un homme qui joue avec les mots avec une dextérité de boxeur, une nervosité de pilote, pas vraiment amateur. Un homme qui a dû en connaître des sorties de route et des craintes de déroute. Un ancien de l'adolescence revenu de la dyslexie pour nous offrir ses fulgurances. À voir l'océan aussi beau, je me dis que la mer veille. C'est avec des phrases comme celle-là et d'autres plus proches du haïku que nous allons voyager avec lui, invités comme nous le sommes dans son pays, pas plat du tout, le pays de son absurdie. Mais ce n'est pas si absurde que ça, d'aimer les mots comme ça. Les libérer de leur sens premier, c'est nous les offrir dans une nouvelle nudité. Et c'est nous faire confiance. Allons-nous comprendre enfin, maintenant, tout de suite, dans une seconde ou dans deux secondes, tant merveilleusement suspendu, juste avant le sourire ou le rire, ou le rien d'ailleurs. Comme quoi, on peut être complice même sans tout comprendre, être ensemble, et de cet être ensemble goûter l'ivresse jusque dans le non-sens. Mais ce n'est pas si absurde que ça, je le répète, d'aimer les mots comme ça. Freud déjà l'avait montré. Un jeu de mots parfois fait éclore de la vérité. Lui se donne au jeu de mots, mais pas toujours pour se cacher, pas toujours par pudeur, pour se montrer peut-être, se dire finalement. Et dans le jeu, J-E-U, alors surgit le jeu, J-E. L'absurdité souvent, soudain, se fait plus discrète. Elle fait place à la liberté. Alors voilà, c'est l'histoire d'un homme que les mots ont libéré, que les mots ont soigné. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a là d'absurde. Il se nomme lui-même Livre de mots, et vous l'avez compris, j'ai la joie de recevoir ce matin Stéphane de Groot, boxeur de mots, mais aussi bien sûr comédien, acteur, réalisateur, auteur. Stéphane de Groot qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour réfléchir avec nous à cette belle question: que peuvent au juste les mots quand ils sont justes?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Stéphane de Groot.
Mais Charles, bonjour, mais merci pour cette introduction. Je suis très touché que vous ayez décrit ma manière de fonctionner avec les mots de la sorte. C'est un beau cadeau en ce début d'été.
Ouais, bah
l'été
écoutez,
sera, j'ai envie de vous dire.
L'été sera serein.
Oui.
Oui, d'ailleurs, pour être honnête, d'habitude, je fais un portrait comme ça, un peu... On ne sait pas trop si c'est l'invité ou un personnage fictif. Mais avec vous, j'avais envie de parler de vous plus directement. Tant j'ai été touché par ce rapport aux mots, quand je dis que les mots vous ont soigné, c'est vrai?
Alors ils m'ont soigné, ils m'ont, enfin,
je veux
ils
pas
m'ont
dire
pas guéri,
malade. Hein.
Mais en tout cas ils ont pris soin de moi. Je les ai rencontrés tardivement les mots, puisque au début je les regardais comme un étranger. J'ai essayé de les apprivoiser et je pense que, alors je sais pas s'ils m'ont soigné, mais j'ai eu envie de les côtoyer pour les côtoyer. Ça fait presque cautériser. Ils ont été comme un pansement. Et dans pansement, il y a pensée. Donc ils m'ont aidé à penser.
Ouais.
Mais je ne sais pas si je suis tout à fait guéri. Je suis assez content en fait d'être malade. Mmh. Encore des mots et des choses et de la vie en général.
Ouais, malade au sens aussi où il y a une maladie d'amour, hein, au sens où on aime follement, quoi. Il y a un amour un peu excessif. Parfois, on a l'impression que vous voterez dedans, quoi. Vous allez jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'avais envie de dire au début, c'est que c'est pas absurde en fait d'aimer comme ça.
Mais je pense que d'abord. L'absurdité, c'est quelque chose de très tangible, c'est tout à fait lié à la réalité, sinon ça devient n'importe quoi. Et quand vous parliez de démarche passionnée, je pense que je l'ai dans la vie, en général. Quand j'aime follement, quand je suis triste, je suis follement triste. Et je pense que c'est aussi mon rapport aux mots, c'est-à-dire que j'ai été chercher ce qui se cachait derrière une lettre, derrière une sonorité. J'ai toujours été très passionné par les choses, parce que je les comprenais pas. Comme j'ai pas eu beaucoup de formation, ben c'était le seul moyen que je pouvais avoir de comprendre, c'est d'aller au bout des choses, de vraiment détricoter tout. Mais que ça soit de la nourriture, que ça soit en amour, que ça soit dans l'écrit, que ça soit avec les gens, je suis une forme d'explorateur de la chose.
Vous vous souvenez du moment où ça a commencé, ce premier éblouissement comme ça devant, je sais pas, l'étrange tessiture d'un mot. Je précise ma question pour les auditeurs, parce que tout le monde ne le sait pas. Vous avez arrêté l'école assez tôt.
Je pense que j'ai jamais commencé vraiment, en fait.
vous avez eu une première vie de pilote automobile.
Oui.
Pilote de Formule quoi, 2000, 3000, comment on appelle
jusqu'à
ça?
Jusqu'à la Formule 3000, c'est l'antichambre de la F1.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était Vous étiez pro, en fait.
Oui, oui, j'ai gagné ma vie comme ça.
Voilà. Et donc, vous avez été dyslexique, peut-être l'êtes-vous toujours, d'ailleurs.
J'espère.
Voilà. Et d'où ma question. Cette première rencontre, finalement, avec la magie des mots, est-ce que vous vous en souvenez?
Pour être très honnête, je pense que je passe ma vie à rencontrer les mots. À chaque fois, je suis surpris, et c'est ça qui est un peu mon moteur. D'ailleurs, l'origine, j'étais voix parce que je le sais pas, mais l'origine du mot, c'est mutare, ou c'est pas moutarde, mais c'est ouais. C'est mute. Et puis il y a mu, et mu, c'est se mouvoir, c'est un moteur. Et donc ça reste un moteur pour moi. Donc, mais mon premier souvenir, je crois surtout que j'écrivais des phrases comme je les écris aujourd'hui, ouais. C'est-à-dire de manière un peu absurde et décalée, et les gens ne me comprenaient pas. Mais moi-même, j'avais un peu de mal à me comprendre, mais ça sortait comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et c'est bien plus tard que j'ai pu en faire quelque chose et j'ai pu en faire un métier, et puis c'est grâce à ça que j'ai pu avoir une certaine... On parlait d'identité dans votre émission il y a quelques jours. J'ai compris qu'à travers cette manière de parler, c'était peut-être un peu mon identité qui se profilait. Donc j'assume ça, mais ça remonte à loin, et j'espère que ça ira loin encore.
Vous avez parlé de mu pour l'étymologie de mot, c'est aussi la métamorphose. La mu, c'est pas simplement le mouvement, c'est la métamorphose, et c'est ça que vous faites avec les mots. Alors je précise, bien sûr, vous n'êtes pas que jouer avec les mots, vous êtes aussi acteur, réalisateur, comédien. Donc voilà, ça va être autre chose, ça va peut-être être un autre rapport aux mots, d'ailleurs peut-être un peu moins libre, on va en parler. Mais quand même, cette métamorphose, cette mu, elle me paraît vraiment intéressante. Elle est au fond presque le secret de la civilisation. On est changé par le rapport au verbe, on est changé par le rapport à la parole.
Mais de manière générale, dans le mouvement, c'est-à-dire que c'est quand vous roulez à vélo, si vous vous arrêtez, vous tombez. Je fais toujours le parallèle avec la notion du présent aussi. C'est pour moi, il n'existe pas, il existe juste avant ou juste après. Et c'est dans le mouvement que d'abord qu'on crée, je trouve, et puis il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Donc la notion de se mouvoir, pour moi, elle est partout. Et je vais même vous dire un truc un peu particulier, c'est que je ne parviens pas à avoir des idées quand je suis à l'arrêt. J'ai besoin de marcher, ou alors j'ai besoin qu'il y ait un mouvement sur moi. Et donc parfois je prends une douche en plein milieu de l'après-midi, parce que le mouvement de l'eau qui coule sur moi, j'ai l'impression de me mouvoir, et à ce moment-là j'ai une inspiration, j'ai des idées qui viennent.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on va marcher pour avoir des idées.
Et qu'on va pas prendre de douche.
Exactement, c'est ce que chante très bien Ben Mazoué dans une chanson qui s'appelle Je marche, comme ça, chanson que j'adore. Quand je vous entends parler, voilà, ancien pilote et puis maintenant amateur de mots, comédien, je pense qu'il y a l'idée de risque dans cette idée de mouvement aussi. Et d'ailleurs, je me souviens de vous dans vos chroniques sur Canal, vous preniez le risque aussi, le risque du bide quand même, hein, le risque que les gens soit ne rient pas, soit carrément ne comprennent pas. Et ce risque, je voudrais qu'on l'entende maintenant.
Alors, c'est toujours bon à savoir, donc savons-le ensemble. Cherchez pas, c'est une conjugaison qui m'est propre. Mais le 27 janvier prochain, Louis-Germain David de Funès, de Galarza, pour l'état civil, ou Louis Eldin Funès pour l'état Cyril, ou encore Louis de Funeste pour ceux qui trouvent ça triste. Enfin lundi quoi, ça fera 31 ans que fut. Quittant ainsi l'écran de ce monde à l'âge de 68 ans. Parce que c'était Louis, parce que c'était moi,
oui, c'est beau.
Un peu de Boétie ne fait jamais de mal,
c'est vrai.
Je souhaitais évoquer la folie des grandes heures avec celui qui incarna Rabbi Jacob, jadis symbole de tolérance, et qui aujourd'hui ne provoque plus que des tolérances. Me recueillant alors au Panthéon du cinéma où il repose aux côtés de Jean Gabin, Jean Marais, Jean Lefebvre ou Jean Carmet, il aurait pu tomber pire, Louis, je dus renoncer car bien vite je fus perdu au milieu de tous ces gens. Réalisant que mon Panthéon était un peu décousu, je me mis en quête exclusive de Clo-Clo.
C'est amusant.
Qui aurait fêté ses 75 ans le 1er février prochain.
C'est dur.
Un anniversaire qui aurait sûrement fait grand bruit s'il n'avait fini comme Véronique Sanson.
Alors d'abord, ça me fait plaisir de réentendre ça, parce que ça me rappelle une époque que j'ai adorée, avec Maïtena Biraben. Vous parliez de bide, et vous avez un ouvrage qui traite de ça, de l'échec. Et
quand mais on moi, parle je suis un spécialiste de l'échec.
Mais c'est formidable de traiter l'échec. Déjà, il faut l'assumer, il faut le parler, il faut le formuler. Il faut pas avoir peur de ça, il faut pas avoir peur de se planter, parce que déjà, quand on se plante, c'est bien, parce que ça veut dire que ça va repousser derrière. Il y a deux notions aussi dans l'échec. On parle d'échouer, on parle d'échec. En fait, l'échec sous-entend qu'on n'a pas essayé. Alors qu'échouer, c'est comme un bateau. On se dit que ce bateau, il est parti quelque part et puis il s'est échoué. Donc il a tenté l'aventure. Quand on tente l'aventure, je pense qu'il n'y a jamais d'échec au bout de l'histoire.
Et quand on vous écoute là, on comprend un truc qui est très, très beau. C'est la confiance, en fait, que vous faites en les gens. Enfin, que vous donnez aux gens. Parce que c'est un peu compliqué parfois. Il y a des choses qui sont, on va dire, qui relèvent de la facilité. On a entendu là, tolérance et tolérance. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus complexes dans les allitérations, dans les résonances, et du coup vous faites confiance, c'est-à-dire que vous pariez un peu sur l'intelligence de celui qui écoute, et le risque que vous prenez c'est celui-là, parce que quelque part vous pouvez parfois être très bon mais ça marche pas parce que c'est trop compliqué, parce que ça va trop vite aussi. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, cette espèce de pari sur l'intelligence des autres en fait, et aussi sur leur rapidité?
Je pense que c'est... Alors, comment vous dire ? Je suis absolument dans cette culture du hiatus, du comprenne qui pourra.
Oui.
Parce que c'est dans ce vide-là que ça permet aux gens de se créer quelque chose, de le remplir à leur manière. Donc effectivement qu'il faut toujours considérer que les autres sont plus intelligents qu'on ne l'imagine. Il faut c'est une manière de respecter l'autre. Et puis c'est une manière de se respecter soi-même aussi. Et le point de départ de ce genre d'initiative, toujours, c'est déjà de se moquer de soi-même. À partir du moment où vous mettez les choses en place à ce niveau-là, que les gens comprennent que vous êtes prêt vous-même à vous prendre la peau de banane, vous pouvez aller partout.
Ouais.
Ça crée un rapport beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Sinon on rit aux dépens des autres, ce qui moi me plaît pas, ce registre me plaît pas. C'est on rit avec les autres.
Vous jouez avec les mots ou sur les mots?
Sûrement avec.
Je vais lire quelques-uns des extraits de votre voyage en absurdie, pour qu'on comprenne bien que la poésie n'est jamais loin aussi. Et cette poésie d'ailleurs qui est une poésie parfois du petit pas de côté, voilà, parfois il y a juste un tout petit pas de côté. « Avoir l'océan aussi beau, je me dis que la merveille », je le relis parce que je ne voudrais pas qu'on croie que dans mon édito c'était de moi, en fait c'était de vous. « Le soleil est une boîte de rayons de couleurs. Si le temps n'existe pas, quelle leur est-il ?» Et puis parfois plus absurde, moins poétique, mais quoique, de l'œuf ou de la poule, qui est arrivé le premier? Le jeune d'œuf.
Oui, alors, je vous dis, moi, à la base, je suis pas très fan de poésie académique, on va dire. Et en revanche, moi, la poésie, elle se trouve partout, au coin du jour, au détour d'une ruelle, au travers d'un regard d'enfant. Je trouve que la poésie, elle est là. Et effectivement, je me suis amusé à écrire ces phrases-là, parce que j'ai pas l'impression qu'elles soient très académiques, mais elles me plaisent, parce qu'il y a, oui, il y a une forme de légèreté, il y a un petit clin d'œil. Et moi, il y a des poètes, en fait, contemporains, qui me plaisent beaucoup. Alors, il n'est pas considéré comme tel, mais quelqu'un comme Sylvain Tesson, je le trouve très poétique dans ses phrases. En trois mots, quatre mots, il nous emmène dans un monde poétique. J'aime ça.
C'est vrai, il y a des éclats comme ça, notamment, enfin, dans pas mal de ses livres, mais je pense à Dans les forêts de Sibérie, que j'ai relu il y a quelques jours. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça, très ramassées, avec beaucoup de lumière, beaucoup de densité. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous visez aussi parfois presque le haïku. Hein.
Oui, j'adore ça. On le pratique peu, mais je suis très fan de ça. C'est intéressant aussi de pouvoir dire quelque chose en très peu de mots, en très peu de temps. Moi, j'ai un rapport au temps qui est tellement particulier, tellement singulier. Vraiment, pour moi, tout recommence le lendemain. Et donc, tout doit aller vite pour pouvoir profiter de tout. J'ai l'impression que vraiment, tout va s'arrêter. Donc, je suis dans cette densité. C'est pas innocent si j'ai fait de la course automobile, si j'écris vite, si je parle vite. Voilà.
Oui, le débit, ouais. Le débit, le rythme, la vitesse.
Oui, à tous les niveaux. Mais à toutes les strates de ma vie, il y a de la vitesse, que ça soit en amour, que ça soit en cuisine, quand je marche, quand j'écris. Donc il y a cette notion de vitesse. C'est pas de la précipitation, c'est un rythme, c'est le mien. Voilà, c'est mon rythme en musique.
Mais vous êtes pressé quand même. Pourquoi?
Comme s'il y avait une urgence. Donc est-ce que quand il y a une urgence, est-ce que on parle d'être pressé? Non, je pense qu'il faut juste à partir du moment où il y a une urgence, je trouve ça cohérent d'avoir le tempo que j'associe à ça. Alors oui, peut-être que je suis pressé, mais c'est bien quand on est pressé, il y a du jus qui sort, il y a quelque chose.
Mais est-ce quelque chose que vous cherchez à rattraper? Est-ce que vous êtes parfois même oppressé, ou est-ce que c'est juste une nature que vous vivez de manière assez apaisée finalement? C'est ça la question.
Je pense que j'ai découvert ça quand très tôt j'ai eu la notion de la mort, parce que j'ai une amie qui est morte très tôt, et je me dis au fond, ah oui, donc ça s'arrête en fait tout ça, à un moment donné.
Oui, parce que c'est ce qui m'a surpris en lisant Voyage en absurdie, Retour en absurdie et tant d'autres, livres de mots. La mort est assez présente en fait, il y a beaucoup d'aphorismes sur la mort, je m'y attendais pas.
Quand j'ai envoyé mes textes à mon éditrice, elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte que tu parles beaucoup de la mort? Alors, je vais ouvrir une énorme porte et le faire une expression à deux balles, mais c'est vrai que si on parle de la mort, on parle de la vie. Et d'ailleurs, dans mort, dans les mots, si vous ajoutez un R à mot, il y a...
Ouais, c'est ce que j'avais prévu, mais casser mon effet, là. Mais est-ce que les mots nous aident à regarder la mort en face, puisqu'on y est, allons-y.
Alors, je sais pas si c'est de la regarder, mais c'est de la comprendre, en tout cas de l'adopter. C'est-à-dire quand on ne peut côtoyer la mort qu'à travers les mots, à travers le langage. On peut pas la côtoyer autrement, si ce n'est une fois qu'on est dedans, après on a un peu de mal à avoir du recul pour réfléchir à la mort. Donc on n'a que les mots pour l'évoquer ou de la convoquer. Et moi j'aime bien convoquer la mort. Plutôt qu'elle se rappelle à moi, moi je me rappelle à elle.
Ouais. Bah, c'était la méthode des stoïciens, hein. Je suis obligé parfois de mettre ma casquette.
Non mais mettez-la, je suis ravi de que vous me compariez aux stoïciens.
Ouais, bah, les stoïciens nous disaient, puisque la mort, on ne sait pas trop ce que c'est, en gros, puisqu'on n'arrive pas bien à se la représenter, et puisqu'elle nous terrorise, eh ben, on va la convoquer, comme vous l'avez dit, le plus souvent possible. Et donc, c'était un exercice que proposaient les stoïciens, chaque jour, le matin, le soir, choisissez le moment, ça peut être à l'heure de l'apéro, si vous voulez, vous pensez à la mort, vous vous imaginez mort, vous imaginez les gens que vous aimez morts, et votre cerveau, au fond, s'habitue à l'idée. Et en fait, ce qui nous angoisse, c'est d'être dans une stratégie de contournement et de détournement par rapport à une idée, et par rapport à une image, en fait, et si on s'habitue à l'image, on l'a et elle nous fait moins peur. Et c'est là qu'on a ce sourire souverain de celui qui rit de tout et même de l'absurde. Je vous propose Stéphane de Groot.
J'aime bien ce passage sur ce que vous venez de dire là.
Alors je recommence alors. Je vous propose d'écouter une chanson de Vanessa Paradis et en étant très attentif à la beauté du texte, justement, peut-être ça va vous parler.
Mettez Paradis en relation avec la mort, c'est ça?
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
C'était Vanessa Paradis, très belle chanson, Il y a.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Eh bien, ce matin, il y a Stéphane de Groot, livre de mots sous le soleil de Platon. Je précise une chose, parce qu'on parle des mots, que cette chanson de Vanessa Paradis est écrite par Gaëtan Roussel, et que ce texte est magnifique.
Magnifique.
Ouais. Il y a des choses, on attend des choses, et puis elles viennent pas, et puis celles qu'on n'attend pas arrivent. C'est ça, d'ailleurs, la poésie, peut-être, cette espèce d'accueil, de l'inattendu. On parlait de votre rapport aux mots. Est-ce que ces mots, parfois, vous ont lâché, vous ont abandonné, vous ont déçu?
Oui, c'est un cycle, comme tout. Alors du coup, on va on va les repêcher, on va les retrouver. C'est comme on parlait tout à l'heure de se mouvoir. Du coup, c'est une quête, c'est d'aller. Mais on disait aussi, on parlait aussi de l'échec, c'est d'aller quelque part. C'est Brel aussi. Ouais. Il parlait de ça. Il faut accepter l'échec. Je pense que c'est aussi une culture très belge. Comme on n'a pas de star system, comme on n'est pas vraiment observé, ouais. On prend le risque de se tromper ou
vous
de se planter
plus
facilement.
Comment? Vous arrivez en France, du coup.
Donc je vais en France une fois que je me suis bien trompé en Belgique. Pour avoir expérimenté les choses. J'aime bien me tromper. Parce que du coup, c'est comme quand on se trompe de chemin, on découvre des choses magnifiques dans les paysages. Donc si on se trompe pas, on reste sur l'autoroute, c'est pas très, très intéressant.
Est-ce que le lapsus, c'est quelque chose qui vous intéresse au sens de ce jaillissement de l'inconscient, finalement, dans le mot? Ou est-ce que vous préférez finalement le travail? Parce qu'en fait, on imagine, ces chroniques qu'on a entendues, on a pris un exemple, on devine beaucoup de travail. À mon avis, j'imagine que pour une chronique de 2 minutes, il y a presque quelques heures de travail.
Il y a une semaine de travail.
Ouais, une semaine, c'est au début, après vous avez progressé.
Non, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me fixais un thème. Une fois que j'avais le thème, je faisais une espèce de galaxie de mots qui pouvaient être cohérents par rapport au sujet. Et puis j'essayais de trouver des punchlines, des mots qui s'emboîtaient. En fait, je faisais un puzzle. Chaque semaine, je faisais un puzzle. Je mettais d'abord, je créais toutes les pièces, puis j'essayais de les emboîter. Et c'était un jeu avec les mots pendant une semaine. Et puis j'allais le livrer effectivement à la télévision. Puis je recommençais la semaine d'après.
Freud a montré que dans le jeu de mots et dans le trait d'esprit, il y a quelque chose de très sérieux, notamment de révélation d'une personnalité, d'un inconscient. Ça vous est arrivé, en fait, dans votre travail, d'être surpris comme ça par une sorte d'éclair et qui vous dit quelque chose de vous-même, soudain?
Par rapport au lapsus?
Ouais, enfin, un lapsus au sens même dans l'écriture. Au sens où vous êtes en train de bosser et vous jouez comme ça avec les mots, vous faites, le truc s'enchaîne et soudain, il y a quelque chose qui vous trahit, mais vous-même.
Oui, mais d'ailleurs, très souvent, j'écris à l'envers. Enfin, c'est-à-dire que je mets un mot à la place d'un autre. Et puis, je me dis, tiens, pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, le fait d'avoir inversé deux, trois mots, ça a un autre sens. Et c'est un sens qui me parle. Et effectivement, il y a parfois la traduction d'une pensée que je peux avoir ou de choses très intimes. Mais j'adore ça. C'est pour ça qu'on parlait de se tromper. C'est se tromper que de faire ça. Mais en fait, c'est quoi se tromper? Est-ce qu'une erreur est vraiment une erreur? Est-ce que l'erreur ne serait pas de ne jamais se tromper, quelque part?
Et puis peut-être, parfois, quand on se trompe, on atteint sa cible, en fait.
Oui, c'est-à-dire que c'est un lâchage. On perd de sa conscience et on explore un univers qu'on ne maîtrise plus trop. J'ai commencé ce métier d'acteur par l'improvisation. Et en fait, on m'a appris ça. On m'a appris à développer mon
imaginaire. Vous avez fait plusieurs années de théâtre impro, je crois, avant de passer de votre vie de pilote à votre vie de comédien.
Voilà.
Vous avez fait beaucoup de théâtre impro. Ça, c'est vraiment intéressant.
Mais c'est intéressant dans la mesure où on vous dit que vous avez de l'imagination, vous n'êtes pas sûr de ça, et en fait on vous le démontre. Et on fait juste une construction intellectuelle, c'est-à-dire qu'on crée des portes dans le cerveau, on crée des clés.
Des connexions, tiroirs, ouais.
Et puis on s'autorise à les ouvrir et à partir quelque part. On ne sait pas très bien où, et c'est là où on découvre qu'on a un univers inexploré qui est à visiter absolument. C'est comme ça qu'est venue petit à petit l'exploration des sons, des sens, ouais. D'associer. Bonsoir à tous. De faire des liens avec des mots qui n'avaient pas beaucoup de sens entre eux, mais une fois qu'on les recolle d'une certaine manière, ça fait sens. Et donc l'impro, c'est surtout s'autoriser à aller quelque part.
Alors justement, je vous propose d'écouter Alain Bachung qui fait ça très bien, le son, le sens.
Magnifique Alain Bachung, c'est un cadeau.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, geyser. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. Alors ça, j'ai l'impression que ça vous a influencé au moins autant que les références habituelles qu'on vous renvoie, Raymond Devos, Louis de Funès. J'ai l'impression que vous êtes au moins autant l'enfant de Bachung que de Raymond Devos.
Mais bien davantage. Mais bien davantage, parce que y a une sonorité avec la chanson qu'on n'a pas forcément avec des gens de scène et des humoristes. En fait, moi, c'est complètement des gens comme Bachung, des gens comme Gainsbourg. Ça m'a beaucoup plus influencé que les, effectivement, comme vous disiez, les grands classiques.
Vous savez, Bachung, il avait cette particularité. Justement, il y avait plusieurs paroliers qui écrivaient pour lui, et parfois, il mixait en fait les paroles qui étaient faites par deux personnes différentes, et il s'écoutait comme ça, il se faisait confiance, il écoutait beaucoup la sonorité, les résonances, et quand on l'entend, d'abord c'est très beau, peut-être que la beauté a besoin comme ça, qu'on soit pas trop collé au sens de la signification, qu'on écoute davantage la résonance sensible, mais du coup il y a une question qui est posée, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre quoi ? Est-ce qu'on a besoin que ça fasse sens ou pas ? Et quelque part, je trouve que parfois vous posez la même question à travers ce que vous faites. Là, je parle pas de vos rôles, on va y venir après, au théâtre ou au cinéma, mais dans votre travail sur les mots, est-ce que parfois on n'a pas besoin simplement que ce soit sensible plutôt que signifiant ?
Je suis absolument d'accord avec vous, mais et d'ailleurs on peut très bien l'imaginer en peinture, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir le guide qui vient vous expliquer ce qu'a voulu faire le peintre. On prend ce qu'on a envie de prendre, on écoute ce qu'on a envie d'écouter. Et comme vous disiez, c'est une sonorité, c'est une forme d'esthétisme, c'est le côté mélodieux. Et oui, ne pas toujours savoir ce qu'il y a dans un plat cuisiné, c'est juste le plaisir de le goûter, point barre, et on passe à autre chose. Ne pas toujours tout intellectualiser, laisser parler le cœur plutôt que l'esprit. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et d'ailleurs, j'imagine que c'est ce qu'on apprend. Moi, ça m'a toujours fasciné, j'en ai pas fait personnellement, mais le théâtre impro. J'ai vu beaucoup de spectacles de théâtre impro. D'abord, on voit bien que on apprend à faire confiance à quelque chose qu'on n'a pas encore saisi, qui va arriver.
Mais bien sûr.
On apprend aussi à accueillir des résonances imprévues. On apprend aussi comme une méthode hein, pour faire venir des tiroirs et les enchaîner, mais quand même on apprend une forme de liberté et puis on apprend à sa confiance aussi.
D'ailleurs. Je pense que ça s'appelle l'instinct, c'est de réagir dans l'immédiateté. En impro par exemple, quelqu'un vous propose une phrase, vous devez en faire quelque chose tout de suite, immédiatement.
Oui, ça c'est la confiance en l'autre d'ailleurs.
Oui, mais le fait de faire confiance à l'autre va à un moment donné vous amener une confiance en vous, parce que ça veut dire que vous êtes en osmose. Ouais. C'est comme au théâtre, si vous regardez quelqu'un, si vous l'écoutez pour ce qu'il a à dire, ça veut dire que s'il se trompe de réplique, vous allez l'entendre et vous allez pouvoir rebondir. Donc ça veut dire que vous vous faites confiance aussi sur la confiance qu'il vous porte.
Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il est impossible au fond de dissocier la confiance en soi et la confiance en les autres. Ça c'est une pensée trop dichotomique. En fait, soit on a confiance d'ailleurs en la vie, quoi, soit on n'a pas confiance.
Oui, c'est se laisser porter, c'est d'accepter l'inconnu de ce qui va se proposer la seconde d'après. Vous parliez d'empressement de ma part, mais en fait c'est parce que je suis à l'écoute de tout ça, et donc j'ai envie de prendre, j'ai envie d'écouter. Il y a une gourmandise d'y aller, de prendre le risque. J'ai pas eu ça au début de mon parcours. J'avais peur de prendre de cette notion de risque.
Enfin, en voiture quand même.
Mais on n'y pense pas au risque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une immédiateté. Qu'est-ce qu'on fait avec tout d'un coup un événement qui se produit juste devant vous avec une
voiture ? Pourquoi vous avez arrêté cette carrière de pilote ?
J'ai arrêté pour pouvoir commencer autre chose. J'ai toujours été animé par cette carrière-là.
On peut faire les deux en même temps. Paul Newman a fait les deux en même temps, je crois. Non ? Jean-Louis Trintignant, ils n'ont pas été pilote et acteur en même temps ?
Oui, absolument. Puis à un moment donné, ils ont laissé de côté l'un des deux. Oui. Et surtout, c'était déjà Paul Newman ou c'était déjà Jean-Louis Trintignant. Moi, je n'étais pas encore installé dans ce métier. Enfin, je ne serais jamais installé, mon Dieu. Mais je n'avais pas encore exploré toutes les options de ce métier. Donc à un moment donné, je me suis dit, si je veux un jour devenir comédien, acteur, troubadour, il faut que je mette de côté les voitures.
Alors si on s'intéresse à votre rapport aux mots, ça ne doit pas être du tout la même chose quand même quand vous jouez un texte au théâtre, par exemple, et que ce texte, il est écrit, il est répété à la virgule près. Je pense à cette pièce d'Alexandre de la Patellière.
Et Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.
Ouais, c'est ça, comment elle s'appelle la pièce ?
C'était une pièce que j'ai jouée à Édouard VII avec Bernice Bejo.
Si vous-même ne vous souvenez pas du tout en tant que moi.
Je ne sais pas si tout, il est très tôt. Voilà.
Donc c'est deux voisins, ça va me revenir.
C'est terrible ça quand même.
Et c'est deux voisins qui se rencontrent, qui se draguent, on se demande s'ils vont s'embrasser, etc. Donc là, c'est du théâtre, c'est très écrit. Du coup, est-ce que c'est le même rapport aux mots ou alors est-ce que c'est deux rapports aux mots très différents des mots que vous triturez, que vous sculptez, et puis aussi, est-ce que c'est le même rapport quand on improvise et quand on répète ce qui n'est pas improvisé du tout ?
C'est-à-dire que c'est toujours intéressant, quand c'est bien écrit, c'est intéressant de jouer la partition d'un autre, parce qu'il y a une contrainte, et dans la contrainte, c'est toujours excitant de trouver une forme de créativité dans la manière de balancer le mot. Ouais. Alors le mot, il est là, et puis vous le réinventez, vous le sublimez, vous le dans votre jeu. Ça, c'est la partie acteur plus que la partie auteur. En fait, les gens qui écrivent, je pense parler pour les autres aussi, ils ont beaucoup de plaisir à s'emparer des mots des autres.
La pièce s'appelle Tout ce que vous voulez.
J'allais vous le dire.
Voilà, ça me revient. Il y avait aussi Un amour de jeunesse, autre pièce de théâtre à laquelle vous avez joué. Et puis il y a aussi vos rôles au cinéma. Quand même, est-ce que vous arrivez dans la répétition de scènes au cinéma quand vous êtes acteur à goûter cette même liberté? Est-ce que vous y arrivez ou est-ce que c'est autre chose? La liberté dans le rapport aux mots finalement.
Mais c'est plus dans la manière dont je vais les proposer à mon partenaire. Au théâtre, par exemple, ça me plaît d'utiliser les mêmes mots, mais de me déplacer autrement. C'est-à-dire que de changer la mise en scène, la mise en place, pour chaque fois recréer une situation à un moment, pour pas que ça soit un truc répétitif au théâtre. Mmh. Et c'est pareil au cinéma, quand je refais une scène, je viens de tourner un film, par exemple, de Nicolas Vanier,
Champagne. Et donc c'est une comédie, pour que les gens, parce que Nicolas Vanier, on n'est pas habitué à lui comme auteur de comédie, c'est un film qui va sortir dans quelques mois.
Voilà, on vient de le terminer, et je me souviens de scènes avec mes camarades Eric Elmosnino et François-Xavier de Maison, où à chaque prise, on changeait vraiment la manière de faire les choses, on se surprenait soi-même, on avait presque envie de bousculer l'autre, pour qu'il propose une autre attitude. Et c'était fascinant, quand vous avez un partenaire qui est prêt à jouer, parce que c'est ça ce métier, c'est jouer en fait, on oublie ça souvent, gens pensent qu'ils ont un statut extraordinaire,
on joue un rôle,
mais en fait on joue, nous sommes des grands enfants, un film c'est ça, c'est une grande boîte de jeu, et puis on va jouer. Et donc quand vous avez des partenaires de jeu, c'est formidable, parce qu'on s'amuse et c'est très ludique en fait. Et donc, voilà, pour répondre à votre question en 3h30.
Vous écrivez aussi dans Le Voyage en Absurdie, aller au bout de soi-même et se rendre compte qu'il n'y a personne.
Oui.
Ça vous arrive souvent?
Ben alors là, c'est toujours la quête. Peut-être que, oui, bien sûr que ça m'arrive. Et heureusement, du coup...
Vous savez à quoi ça me fait penser? Je vous interromps parce que...
Je vous en prie.
Parce que le prof de philo, parfois, aime bien couper les élèves. En fait, c'est Pascal qui dit, il dit exactement la même chose, mais autrement. Il dit voilà,
Pascal,
on croit dans les pensées, donc on croit qu'il y a une identité profonde, un moi, une vérité personnelle, et on le voit au cœur d'un oignon comme ça. Et donc on enlève les différentes couches de l'oignon, et puis une couche d'oignon, une couche d'oignon, une couche d'oignon, et puis à la fin, on va trouver le noyau, quoi, l'identité. C'est un peu comme ce que vous dites. On va au bout de soi et puis on va trouver la personne. Et puis Pascal continue et puis à la fin, il dit, et c'est assez drôle, ben en fait, quand on a enlevé la dernière couche de l'oignon, ben il y a rien.
Oui.
Ça veut dire qu'en fait, on est dans le leurre, dans l'illusion qu'on va trouver une identité, qu'on va se trouver. En fait, il y a juste des couches comme ça, des visages, des simulacres.
Et vous avez raison. Et puis la chose, en fait, c'est Pascal, se situe dans quoi? Dans les épluchures de l'oignon. C'est ça en fait, c'est là que ça se passe, c'est la quête vers soi, c'est ça qui est intéressant. Et puis en l'occurrence avec les oignons, on n'a plus que les yeux pour pleurer.
Ouais. Et d'ailleurs, les différentes couches, c'est aussi une manière de s'alléger, quoi, en quelque sorte.
C'est la mue, on parlait de la mue.
La mue, c'est la mue, la métamorphose, c'est le mouvement aussi, le mouvement d'une vie. Tout ça nous conduit logiquement dans un mouvement qui est celui d'une glisse à cette chanson de Mead, Let You Speak. C'était Mead, un Français, figurez-vous, la chanson Let You Speak. Sur l'album, on peut pas mieux dire Born Loser.
Sous le soleil de Platon.
Je sens que tu ne m'aimes plus.
C'est vrai, je t'aime plus. Il n'y a rien à expliquer, je t'aime plus.
Hier, tu m'aimais encore?
Oui, beaucoup. Maintenant, c'est fini.
T'as bien raison?
Oui, sûrement.
Laquelle?
Je sais pas.
Charles Pépin sur France Inter.
Alors, elle, c'est de l'absurde aussi, ça, presque.
Bien sûr, complètement.
J'aimerais pas que ça m'arrive, franchement. Bah écoute, je t'aimais hier, aujourd'hui je t'aime plus, mais pourquoi? Bah en fait, je sais pas.
Mais, oui, mais c'est ça, c'est, y a, c'est de nouveau, on parle du temps, et je sais plus, il y avait une phrase... Je sais plus. Je vous en prie, allez-y.
Alors tout à l'heure, on évoquait ces philosophes. Vous les taclez un petit peu parfois dans votre livre Voyage en absurdie. Vous parlez un peu de philosophie à un moment. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Mais vous citez par exemple des philosophes précieux et ô combien reconnus. Quand vous parlez d'une de mes phrases, alors déjà ça me flatte pas du tout, mais ça me touche parce que comme je n'ai rien appris jamais et que je n'avais pas de notion de philosophie, on se rend compte à travers ça. Enfin, je me rends compte à travers ça que la pensée est universelle et que le philosophe quelque part n'invente pas une pensée, mais c'est un traducteur de pensée. Et tout d'un coup, ça nous parle, parce que c'est ce qu'on voulait exprimer, c'est ce qui nous anime, mais c'est lui qui est le porteur du schéma construit de cette pensée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et donc elle est partout, la pensée.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, pour être un peu... Pour ouvrir le dialogue, je pense qu'il y a deux types de philosophes. Il y a ceux qui font ce que vous dites, qui se font... qui accueille en fait une pensée qui est déjà là, c'est ça que vous évoquez, notamment dans des aphorismes par exemple. Donc vous aimez les aphorismes. Il y a quelque chose d'un peu électrique comme ça, on se laisse traverser par des idées qui sont là. Et puis il y a quand même des philosophes qui construisent un système et qui en fait apportent des idées nouvelles. Ça c'est quand même autre chose.
Oui, bien sûr. Ben je vous rejoins là-dessus, c'est sûr. Mais ils apportent un système de pensée, une mécanique du pensée qui est malgré tout qui est là, qui est dans la nature. Ouais. Après, ils la recomposent pour en faire quelque chose de formel.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que, en fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes autodidacte en gros.
Oui.
Vous n'avez pas une culture classique. Scolaire, quoi, très développé. D'ailleurs, la poésie, parce que ce que vous faites, c'est quand même de la poésie. Il y a du jaillissement, comme ça. Cette manière d'écouter, raisonner les mots, de les entendre raisonner avec un « et », plus que raisonner « aï », ça
sûr,
vous parle.
Oui.
Et pourtant, vous n'êtes pas passé par beaucoup de poésie classique, ni même de philosophie classique. Et en fait, ce qu'on entend dans votre propos, c'est que, finalement, vous dites, mais oui, mais au fond, en fait, je retrouve cette pensée, mais sans être passé par ce chemin-là. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en tant que prof de philo. Pendant 20 ans, c'est ce que j'ai aimé faire, en fait. C'est de rencontrer des jeunes et de leur dire, mais en fait, la philosophie, elle est en vous. Vous êtes philosophe, il n'y a pas besoin de passer par un édifice, une architecture, des étapes. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est l'idée de l'éclair, de l'éclaircie, de l'électricité. Il y a ça dans vos aphorismes. J'en prends un autre. Alors écoutez bien, je t'ai blessé, alors j'ai pensé t'appeler, mais tu n'as pas décroché.
Oui, je m'amuse avec ça, parce qu'il y a plusieurs sens là-dedans. Mais je me fais cueillir moi-même, hein, quand je commence à écrire. Que par exemple, j'évoque la pensée, je dis tiens, j'ai envie d'écrire sur la pensée. Et puis tout d'un coup, les mots s'offrent à moi, en fait. Il suffit juste, ils sont là. On n'invente pas de lettres, on n'invente pas de mots. Ils sont là, les mots. C'est juste l'ordre dans lequel on va les remettre qui prennent sens. On parle de la philosophie, c'est là, c'est dans la nature. Il suffit juste de se baisser, de cueillir. Alors, nous ne sommes pas tous des cueilleurs professionnels, mais ça pousse. Il suffit juste d'aller récolter les choses qui sont là.
Est-ce que vous avez une méthode pour la récolte? C'est-à-dire, par exemple, des rites pour essayer d'accueillir comme ça ce jaillissement électrique, ou alors peut-être de la volonté, ou alors au contraire le relâchement de la volonté.
Mais vous venez de le dire, accueillir. Mais dans la récolte, il y a cueillir, il y a la cueillette. Et donc accueillir, c'est ça, c'est se laisser disponible pour cueillir et pour faire la cueillette. C'est laisser rentrer en soi les choses. Donc moi, c'est pas une méthode, c'est pas une méthode en fait, parce que la méthode, de nouveau, c'est une forme de théorie. Et moi, je n'ai pas de théorie, je me laisse aller. Voilà. Alors si ça devient de la théorie, après on peut en faire pendant 3 heures. Mais c'est de me balader sur un chemin et puis de regarder autour de moi et c'est de faire la cueillette. Voilà. Je me laisse accueillir, je me laisse cueillir.
Lorsque sonne automne, l'hiver lui prête une oreille attentive.
Lorsque sonne automne. Oui, c'est. Alors c'est drôle parce que dans ce que vous dites, effectivement il y a des choses amusantes, il y a des clins d'œil. Et puis au départ, c'est vraiment une démarche ludique. Et ce n'est que après coup, je me dis tiens, ça veut dire quelque chose. C'est comme un jour, une journaliste me dit est-ce que vous avez déjà imaginé votre épitaphe? Oui. Je dis non, pas tout de suite. Et puis je me suis amusé à réfléchir à ça. Et puis m'est venue cette phrase où j'ai écrit phrase terminale. Oui. Et au début, ça partait d'un jeu. Et après coup, je me dis tiens. Ça m'amuse en fait de savoir qu'il y a plusieurs lectures dans un mot, dans une phrase. C'est ça qui m'a toujours passionné en fait, c'est que un mot.
C'est comme obsédé textuel.
Oui, obsédé textuel. Oui. Bon, alors, c'est facile, mais aimer les mots et en faire quelque chose, c'est juste être un explorateur. Mais il y a des explorateurs en cuisine, des explorateurs en toutes choses. C'est explorer, c'est d'aller au bout des choses. On en parlait aussi tout à l'heure de ça. C'est de voyager à travers quelque chose, à travers quelqu'un, à travers, ouais. À travers soi.
Ce que j'aime bien dans ce que vous faites, c'est que vous n'avez pas peur de la facilité. Alors, on pourrait mal le prendre, mais en fait non, c'est très travaillé. Mais vous accueillez quand même parfois une facilité au milieu pour la faire résonner, pour créer une connivence, pour peut-être créer aussi un soupçon chez l'autre. Tiens. Il va s'autoriser ce truc facile, d'où il se l'autorise. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup, figurez-vous, chez les philosophes. Il y a plein de philosophes qui ils doivent être imbitables, autrement ils se sentent pas philosophes. Il y a plein de profs de philo, si on les comprend, ils estiment qu'ils sont pas bons. Et puis il y a des philosophes que j'adore, des Alain, des Sartre, des Bergson, ils sont très compliqués, très exigeants, mais à un moment, ils vont oser un énoncé très simple et le faire résonner.
Mais... quand on parle de philosophie, c'est pour s'adresser à l'autre, c'est pas pour s'adresser à soi ou pour s'écouter parler. Et donc ça sous-entendrait que tout le monde soit expert en philosophie pour comprendre le discours philosophique d'un philosophe. Non, ça s'adresse au commun des mortels, c'est ça la philosophie, c'est justement le faire comprendre au plus grand nombre. Et le plus grand nombre a envie d'un un moment donné de facilité. Enfin, c'est pourquoi il faut pas compliquer les choses, juste pour avoir une posture, pour passer pour quelqu'un d'intelligent. Non, en fait quelqu'un intelligent c'est quelqu'un qui permet de faire passer une pensée et de la partager. Donc ça passe évidemment par la facilité.
On trouve chez Yankelevitch une définition de l'ironie que j'aimerais vous soumettre. L'ironie est un pari sur l'intelligence de l'autre. Elle tend la perche à celui qu'elle égare.
J'aime beaucoup évoquer de l'ironie parce qu'il y a toujours ce distinguo entre l'ironie et le cynisme.
Ouais.
Le cynisme, c'est quand l'ironie devient vraie. Il y a un jeu avec l'ironie, c'est-à-dire qu'on se moque à ses dépens, on se moque déjà de soi-même quelque part quand on est une forme d'ironie. On accepte de prendre la pensée de biais, alors que le cynisme, c'est une attaque. C'est,
voilà. Vous n'êtes jamais cynique?
Non, je crois pas. Je déteste ça. Je fuis le cynisme. Je fuis les cyniques. Je pense qu'ils se fuient eux-mêmes, de toute façon.
Je vous ai préparé un petit quiz. Le principe est simple, des réponses courtes et on essaye de retrouver cette électricité.
C'est là où je vais bien me montrer et qu'on va se dire que ce type est un imposteur.
Vous aimez ça. Alors, les mots ou la mort ?
Les mots ou la mort. Voilà.
Les deux, quoi. Joie ou bonheur.
La joie d'être heureux.
Sens ou sensible.
Sensitif.
Sexe ou cul.
Cux.
On va développer un petit peu.
Sexe ou cul, ça dépend, les deux. Alors là, les deux pour le coup.
C'est quoi la différence?
Ben, il y a l'amour ou la baise.
Rire ou sourire.
Ben, on sourit plus souvent qu'on ne rit. Et donc j'aime le sourire. J'aime le sourire parce que le sourire amène le rire.
Improvisation ou répétition.
Improvisation.
Orelsan ou Booba. Attention parce que ça c'est important.
Orelsan.
Pourquoi? Mais c'est incroyable. Ça fait 40 émissions que les gens préfèrent Orelsan à Booba. Mais pourtant Booba, c'est intéressant son travail sur les mots.
Ah mais sûrement. Mais vous me posez la question, alors je vous réponds.
Pertinence ou impertinence?
Si l'impertinence est pertinente, je prends les deux.
France ou Belgique?
France ou Belgique, la Suisse.
C'est con comme question.
La Suisse.
Bonne formule ou formule 3000?
La formule 3000 est une très très bonne formule.
Tristesse ou mélancolie?
Mélancolie.
Absolu ou relatif?
Relatif.
Légal ou légitime?
Légitime.
Essence ou existence?
Essence.
Pas mal. Merci beaucoup Stéphane de Groot. Alors, on va parler un peu de vos projets de cinéma, parce que même si c'est pas une émission de promo, ils existent. Et il y a ce film que j'avais vu sortir pendant le confinement, Tout nous sourit, mais qui en fait n'est pas sorti et qui va sortir bientôt.
Alors, il devrait sortir à la rentrée, oui.
Le pitch est génial, racontez-nous un petit peu.
C'est un couple qui décide de partir pour le week-end, chacun pour des raisons professionnelles, séparément. Et en fait, ils vont chacun retrouver leur maîtresse et leur amant dans leur maison de campagne, à l'insu de l'autre. Et en fait, ils vont se retrouver à quatre dans cette maison. Puis les enfants vont débarquer parce que les enfants, pensant que les parents étaient absents, ils vont faire la fête le week-end dans cette maison. Donc les enfants débarquent, plus les beaux-parents. Et en fait, ça va être une espèce de huis clos entre les deux couples légitimes et les deux couples et les amants. Et ils vont devoir composer avec tout ça. C'est un film de Mélissa Drijard.
Tout nous sourit, ça s'appelle.
Tout nous sourit avec Elsa Zilberstein, Guy Marchand, Anne Benoît. C'est le genre de film qui vous réjouit parce que ce sont des films intelligents, ce sont des films qui parlent de quelque chose et en même temps c'est sous couvert de comédie. Donc c'est légèrement profond et profondément drôle.
Vous êtes tenté par un peu de gravité, sortir de la comédie, soit écrire, soit jouer des choses qui sont moins directement de l'ordre de la comédie?
Alors je suis en train d'écrire un film, ouais. Sur les mots, ça ne vous étonnera pas, où c'est le personnage principal, ce qui est un avocat, et qui, au fil des jours, perd l'usage des mots. Et qu'est-ce qu'il en fait, alors, du coup, alors que son métier, c'est justement d'utiliser les mots comme des armes et comme des arguments pour sauver des vies? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc ça, c'est l'écriture de mon film.
Mais ça, c'est un film, vous voulez dire, c'est un avocat, c'est ça?
Oui, c'est un avocat.
Qui perd, ça, c'est intéressant parce que on peut pas, il me semble que la question des mots est très bien posée, par l'avocat. Alors ceux qui aiment pas les avocats les appellent des bavards ou des baveux, même quand c'est, oui, avec un peu de mépris. Et c'est vrai qu'il y a dans l'éloquence de l'avocat quelque chose d'un peu figé en fait, d'un peu forcé parfois, et qui est justement un peu à milieu de ce qu'on a évoqué ensemble, ce moment de jaillissement, ce moment d'éclosion. Donc ça me paraît hyper intéressant comme angle.
Oui, et alors ça va,
ça
même
va s'appeler comment?
Alors pour le moment ça va s'appeler Le frère de mon frère. Et c'est en fait on va comprendre qu'il y a eu un trauma. En fait, il va réapprendre à parler grâce à la musique. Et au début, j'ai écrit ça en me disant.
On retrouve la sonorité, quoi.
Oui. Et puis j'ai écrit ça en me disant tiens, c'est une idée peut-être très poétique, très. J'y croyais plus jusqu'à ce que je lise que Mélodie Gardot, ouais, la jazzwoman formidable. En fait, il lui est arrivé ça. C'est-à-dire qu'elle a eu un accident un jour à 15 ans, je crois. Elle a perdu l'usage de la parole. Et sa mère lui a offert une guitare. Et grâce à cette guitare, elle a entendu des sons, des sonorités, et elle a réappris à parler avec, grâce à la musique. Et donc, mon film traite de ça. C'est comment ce personnage-là va recouvrer la parole.
Et c'est d'autant plus beau de retrouver les mots par la musique, que parfois aussi on retrouve la pensée par les mots. En fait, dans la tradition philosophique, on s'est trompé pendant des siècles. On pensait qu'il y avait des mots qui étaient faits pour communiquer des pensées qui préexistaient. Donc on pensait qu'il y avait des pensées, et puis après on utilisait les mots pour communiquer les pensées. Des philosophes, avant les neurosciences du XXe siècle, ont compris que c'était faux intuitivement. Hegel, par exemple, le génie allemand, qui a dit « c'est dans le mot que la pensée fait sens. Pas avant. Et puis, les neurosciences récemment ont prouvé que Hegel et puis Stéphane de Groot avaient raison, puisqu'en fait, on ne pense pas sans les mots. On ne ressent pas sans les mots, et on ne rit pas sans les mots. Je trouve que c'est une très belle phrase de Hegel. C'est dans le mot que la pensée fait sens.
J'adore ça. Et je vais vous dire, il y a quelques années, une journaliste me posait des questions, et elle s'excusait de la manière dont me posait les questions, parce qu'elle avait la voix enrouée, et elle me disait, je n'utilise pas le même langage, j'ai pas les mêmes mots que j'utiliserais habituellement, et du coup, je ne vous pose pas les mêmes questions. Donc la pensée était biaisée à cause de certains mots qu'elle ne pouvait pas utiliser. Ça rejoint un peu ce que
exactement.
Vous dites
là. Et vous avez quel rapport au silence? Ça vous effraie parfois? Vous voulez le remplir de mots? Notamment le silence quand vous avez fait par exemple une blague et qu'on ne rit pas tout de suite, le silence, le chemin que prend aussi le sens pour jaillir, ça prend du temps parfois.
Ah non, mais le silence, il veut dire tellement de choses. D'abord, ça nous permet de penser, de réfléchir, ce qui n'est pas pareil. Et c'est de... En fait, il y a beaucoup de choses à entendre et à écouter dans le silence. C'est un temps de répit, c'est un temps de réflexion, c'est un temps, et comme j'aime le temps, j'en fais un partenaire de vie, j'adore ça. Oui, non, le silence, c'est quelque chose qui ne me fait pas du tout peur, au contraire.
Vous pensez qu'on a été trop peu silencieux pendant une heure?
Moi, je serais partant pour une heure de plus, hein. J'ai adoré cette émission, Charles. J'aurais adoré avoir un prof de philo comme vous. J'aurais adoré avoir un prof, tout simplement, un jour. Mais on fera une autre émission un jour, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des sujets qu'il faut traiter. Je m'amuse à penser à ça. C'est que pendant très longtemps, j'ai essayé de trouver la différence entre être malin ou être intelligent. Et sauf qu'il y a un truc très intéressant à penser à ce niveau-là.
Ouais, ben en fait, peut-être être malin, c'est justement davantage sourire et savoir accueillir comme ça ce qui vient, alors que l'intelligence est souvent une intelligence anticipatrice, une intelligence qui veut attraper, saisir, posséder, et non pas laisser être et jaillir ce qui vient. Merci beaucoup.
Ouais, je termine. Moi, je pensais que alors le type intelligent crée la pensée, et le type malin s'en empare.
Ouais, donc vous valorisez davantage l'intelligence, mais vous avez
non,
bien raison.
Pas forcément.
On pourrait distinguer, mais de toute façon, on est obligé de conclure car c'est
mais
l'heure.
Mais pourquoi au nom de quoi on devrait conclure?
En tout cas, il y a peut-être une intelligence sensible, qui est celle dont on parle et qu'on a envie de d'aimer, et une intelligence plus rationnelle, qui est plus coupée de ce mouvement de la vie que vous essayez souvent de saisir dans vos mots.
Quand vous dites sensible, c'est avec un C.
Sensible avec deux S, comme sensuel et comme sens.
C'est pas comme viser la cible.
Ah oui, la cible aussi. Stéphane de Groot, merci. Je vais lire un dernier extrait de votre voyage en absurdie pour faire votre portrait conclusif. Aux saisons qui se coupent en quatre pour faire la pluie et le beau temps. Votre philosophie de la vie est là très bien résumée. Une philosophie, je dirais, d'un amoureux de ce qu'il y a dans les mots, entre les mots, quand ils se télescopent, quand ils se percutent. Quelque chose comme une confiance aussi. Une confiance en l'autre, une confiance en ce qu'il y a ensemble. Confiance que vous avez apprise, on s'en doute, et ça donne vraiment envie d'en faire dans ces années fondatrices de théâtre improvisé. Merci beaucoup Stéphane de Groot.
Merci,
et à bientôt au cinéma, notamment dans ce film Tout nous sourit.
Merci infiniment.
Merci, c'était un plaisir. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Pauline Laverdure, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h précisément sur France Inter, sous le soleil de Platon.